le 7-9 sur France Inter.
Léa Salamé, votre invitée, est philosophe et publie Little Brother chez Gallimard.
Bonjour Raphaël Enthoven.
Bonjour Léa Salamé.
On va parler de votre livre Little Brother dans un instant, mais d'abord la campagne présidentielle s'achève dans moins d'une semaine. Le philosophe que vous êtes, sauverait-il quelque chose à cette drôle de campagne?
Vous savez, je ne suis que prof de philo, mais je sauve tout. Moi, je sauve tout, je trouve tout ça extrêmement intéressant. Les hologrammes de Mélenchon, les en même temps de Macron, les mensonges spectaculaires de Fillon, les lâchetés de Marine Le Pen qui se dérobe aux convocations, le recouvrement de la vérité par l'opinion. Je trouve tout ça passionnant, je trouve que c'est un festin pour la réflexion, pour les yeux aussi. Je m'amuse énormément.
Vous vous amusez, vous n'êtes pas inquiet?
Je suis inquiet, bien sûr, ça fait partie du plaisir qu'on a à s'y trouver aussi. Rares sont les amusements sans inquiétude. Donc voilà, oui, je m'amuse et je suis inquiet.
Dans votre livre, vous dénoncez la tendance esthétique du moment à céder à la nostalgie où c'était mieux avant. Mais sincèrement et sérieusement, quand on voit cette campagne, vous le dites vous-même avec ironie, mais si indécise, si délétère, si filandreuse, est-ce que c'était pas mieux avant, les campagnes présidentielles?
Non, je crois pas, parce que il s'est passé quelque chose en 1992 avec le traité de Maastricht. S'est passé une chose très importante. Le paysage idéologique a été bouleversé, mais le paysage politique n'a pas coïncidé avec ce bouleversement. Ça a mis 30 ans. Le paysage politique a 30 ans de retard sur le paysage idéologique. Et d'assister à l'émergence aujourd'hui de deux blocs, un bloc libéral face à un bloc souverainiste, au fond, me semble correspondre à ce qui s'est noué en 1992, avec naturellement des palinodies, des retournements. Mais enfin, je crois qu'on y vient. Et de ce point de vue, il y a derrière la confusion apparente de la campagne une forme de logique interne, je crois, peut-être de sens à tout ça. En tout cas, c'est intéressant de voir la façon dont les choses vont précipiter.
Notre rapport à la vérité, il a quand même été mis à rude épreuve. Je vous entends optimiste ce matin, mais les mots n'ont plus d'importance, les faits ne semblent plus avoir d'importance non plus. Quand l'un promet de respecter les résultats des primaires et ne le fait pas, quand l'autre dit je me retire si je suis mis en examen et ne le fait pas, quand la troisième, et vous le dites vous-même, ne va pas se présenter devant les juges parce que c'est comme ça, est-ce qu'on est dans une campagne nihiliste tout de même?
Non, je dis, c'est la critique du rapport du souverain à la parole donnée, elle existe depuis le 15e siècle. Machiavel disait, il y a des moments où le souverain doit mentir.
Seulement, mais là, Machiavel beaucoup,
disait,
quand même.
Oui, mais justement, Machiavel disait, faut mentir, mais faut mentir en donnant le sentiment qu'on dit vrai. Alors que là, ce qui me fascine, moi, c'est l'impunité du menteur. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui, tranquillement, impunément, disent le 26 janvier, si je suis mis en examen, j'y vais pas. Et un mois plus tard, disent, je suis mis en examen, j'y vais, je vous emmerde. Et c'est cette impunité du menteur qui me semble fascinante. C'est-à-dire, on fait peu de cas de la vérité dans un monde où tout le monde la brandit. Donc, mais là encore, c'est plus intéressant que douloureux, je trouve.
Bon, ce qui a changé aussi, ce sont les réseaux sociaux et la violence des échanges sur les réseaux sociaux. Vous réagissez beaucoup à cela sur Twitter, Raphaël Enthoven, aux insultes, aux invectives. Vous avez d'ailleurs beaucoup tweeté, réagi ce week-end dans un bras de fer qui a opposé le dessinateur Johann Sfar au militant de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, l'histoire est étonnante. Johann Sfar s'est contenté de s'étonner que Clémentine Autain ne sache pas ou ne sût pas que Mélenchon avait prévu l'intégration de la France dans l'ALBA, donc dans l'Alliance bolivarienne. Il a reçu ce qu'on appelle en franglais une shitstorm sur Twitter, c'est-à-dire qu'il s'est fait agonir, détester, avec des trucs antisémites aussi, absurdes. Et donc, évidemment, on découvre à cette occasion que Twitter, que les réseaux sociaux sont pas tant des espaces de dialogue que des espaces de censure, où une majorité tyrannique essaie d'écraser une parole qui dit ce qu'on vient. Donc, dans ces cas-là, on prend fait et cause, non pas pour Johann Sfar, mais pour la civilité, pour la possibilité du dialogue.
Mais est-ce possible sur Twitter?
Oui, c'est possible. Il y a des épiphanies sur Twitter, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont opaques, organisés et qui sont conçus pour faire taire les gens. Et il y a aussi des individus qui, chacun de ces groupes est composé d'individus qui, pris individuellement, sont susceptibles de dialogue, de penser contre eux-mêmes. Et donc, c'est mon espoir.
Sur Jean-Luc Mélenchon, vous avez déclaré début mars sur LCI, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat pour gagner, il ne veut pas le pouvoir, il veut juste faire avancer ses idées. Bon, sur Nostradamus, on repassera.
Non, je ne m'aventurerai pas au jeu des prédictions. Je continue de penser qu'il est surpris lui-même par son propre succès et que la perspective dans laquelle il était candidat était plutôt une façon à ses yeux de faire avancer ses idées. Maintenant, à mesure que les sondages le destinent presque à une finale, il est normal qu'il donne à tout ça un tour plus présidentiel. M'est avis, mais je peux me tromper, et j'espère que c'est le cas d'ailleurs, qu'il est surpris lui-même par son propre succès.
Je ne vais pas vous demander pour qui vous votez, Raphaël Enthoven, mais est-ce que vous savez pour qui vous allez voter?
Oui, je sais pour qui je vais voter. Je le sais depuis un certain temps d'ailleurs même, je dois dire.
Donc vous ne faites pas partie des 30% d'indécis?
Non, sur ce coup-là, non. Mais vous savez, en général, les indécis, ce n'est pas des gens qui n'ont pas encore décidé, c'est des gens qui ont déjà décidé, mais qui ne savent pas la décision qu'ils ont prise. Donc en général, dans la vie, on décide et puis après on délibère. Les indécis sont des gens qui délibèrent, ils ont déjà décidé, mais ils savent pas quoi.
Little Brother, c'est le titre registre de votre nouveau livre, Little Brother. C'est vous, c'est moi, c'est Marc Fauvel, c'est Thomas Legrand. Ici, c'est nous tous qui nous surveillons les uns les autres et qui avons remplacé Big Brother, c'est-à-dire l'œil de Moscou, l'État.
C'est ça, on ne sait plus l'œil de Moscou, c'est le smartphone du voisin, si vous voulez. C'est la façon dont la démocratie a réinvesti le schéma de la surveillance orwellien, mais à l'échelle horizontale, selon des modalités tout à fait différentes. C'est plus l'œil de Vichy, c'est plus l'œil de Moscou, c'est un banc de poissons qui vous surveille sans le savoir lui-même. C'est la surveillance de chacun par chacun. Ça ressemble à l'état de nature, si vous voulez, dans les univers pré-contractuels. C'est un monde chaotique et c'est un monde qui, à cet égard, est passionnant. Parce qu'il y a moins de verticalité, moins de transcendance et que les ennemis, surtout, ne sont plus des ennemis objectifs. Les résistances sont des résistances ponctuelles et non plus des résistances systématiques. On a moins à craindre le retour des tyrannies qu'une involution de la démocratie par elle-même.
Et pourtant, vous vous moquez de tous les symboles de notre solitude, notre modernité.
Je cède à tous les symboles dont je me moque.
Oui, tous les vices, vous les partagez, selfies. Les smileys, les émoticônes, le mode avion sur le smartphone, la langue de bois, ou encore le vivre ensemble. Vivre ensemble, nouvelle injonction moderne, nouveau graal démocratique, en prend un sérieux coup dans votre livre. Vous dites le vivre ensemble est d'une insondable vacuité.
C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est le contraste entre le nombre de fois où on le brandit et l'incapacité dans laquelle on se trouve de le définir. À ce contraste s'ajoute une incertitude orthographique, puisque le vivre ensemble lui-même ne sait pas s'il porte un trait d'union. Ce qui est quand même intéressant quand on pense à la réalité, entre guillemets, que le mot désigne. C'est une injonction qui est d'autant plus absolue qu'elle est confuse. Et c'est le signe de notre modernité. Le vivre ensemble désigne tout, mais on doit s'y soumettre. Et c'est ce mélange de coercition et de confusion qui, à mon avis, caractérise un univers démocratique, qui croit savoir ce qu'il défend, alors qu'en réalité, il pense contre lui-même ou il joue contre lui-même.
Les chauffeurs Uber.
Oui.
Ah là là, les chauffeurs Uber, ils prennent cher.
Alors, mais les chauffeurs Uber, si vous voulez, ils sont un peu comme le garçon de café sartrien. Le garçon de café sartrien, il joue au garçon de café, il se déguise en garçon de café. Le chauffeur Uber se déguise en chauffeur Uber. Quand vous entrez dans un Uber, il vous dit, est-ce que vous voulez une autre chaîne de radio? Alors, si vous écoutez France Inter, vous demandez France Inter. Enfin, est-ce que vous voulez des bonbons? Vous avez de l'eau si vous voulez? Bienvenue chez Uber, etc.
Il est devenu lisse. Stéréotypé, déshumanisé.
Ça n'est pas au client qu'il parle. Il montre au client qu'il veut être sympa avec lui. C'est pas la même chose. C'est une politesse tout à fait particulière. C'est une politesse spectaculaire. Elle est trop ostensible pour être sincère. Je veux dire, pourquoi si peu de haine dans les taxis Uber, en fait? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous regrettez le chauffeur de taxi, antipathique?
Je regrette rien. Quand on a des regrets, on est malheureux deux fois. Mais j'observe ce décalage entre la singularité permanente d'un taxi et cette espèce d'uniformisation, cette barbarie à visage urbain qu'on appelle Uber.
Voilà, c'est ce que vous dites. Et en une seconde, vous avez quoi contre les poupées Barbie?
Rien du tout. Au contraire, je regrette qu'elles soient adaptées au physique disparate des fillettes. Je trouvais intéressant qu'elles ne soient
que des idées. Blonde sublime.
Et non, pas blonde sublime. C'était une idée. Donc, on ne pouvait pas leur ressembler sans s'estropier le visage.
Merci à vous, Raphaël Etoven. Little Brother chez Gallimard. Et on vous laisse repartir sur une radio concurrente.
C'est vrai.
Chez qui vous travaillez. Europe 1, merci. À vous.
Merci à vous. Un chauffeur Uber qui l'attend en bas de la maison de la radio, évidemment. Merci à vous, Léa Salamé. Et à demain dans moins d'une minute, le journal.